Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh, bon sang. Tu recommences toujours la même chanson. Et qu'est-ce qu'on va faire?
L'agenda culturel d'Escapade.
Pour tout savoir
sur ce qui se passe
près de chez vous.
Stage.
Cinéma.
Festival.
Atelier. Événements sportifs.
Concerts.
Expo.
Balade nature.
L'agenda culturel d'Escapade.
Tous les mardis,
mercredis,
jeudis
et vendredis
à midi.
Rediffusion le soir même à 19h.
Et en podcast à toute heure.
Sur le site radioescapades.org. Tu sais pas quoi faire? Écoute l'agenda culturel d'Escapade. Bonjour et bienvenue dans votre agenda de ce mercredi 19 février. Aujourd'hui à 16h au Palace au Vigan, il y a un ciné-goûter qui est organisé, un programme de 4 courts-métrages pour les plus jeunes, Le chat dans le sac, Le chat tout court, Erwin et enfin MacPat, le chat chanteur. Le goûter est offert par la Biocoop du Vigan. Demain à 20h30 à la Lézarde à Saint-Jean-du-Gard, c'est le Ciné-Club avec le film Chantier A de Lucie Desch, Karim Louhalich et Tarek Sami. 10 ans après être parti, Karim Louhalich, poète et musicien, revient sur sa terre natale kabyle et erre dans les paysages de l'Algérie contemporaine. Entre documentaire et fiction, ce voyage filmique évoque le lien introuvable à la terre quittée, transformée en une entité méconnue. Qu'il faut réapprendre à lire dans l'ivresse des retrouvailles et l'amertume du temps passé. Avant le film, il y a un repas partagé à partir de 19h30. On passe au vendredi 21, demain, après-demain, je veux dire, à la cantine associative Bio Ensemble. C'est Louis qui vous concocte un menu incroyable avec yaourt au citron vert et sésame, butternut farci au risotto de poireaux et fromage de chèvre, pesto de persil à l'ail, noix de cajou grillées et en dessert mousse au chocolat et chantilly au café. Ce vendredi, toujours, Cinéco est à Saint-Jean-du-Gard pour une double projection. À 18h, c'est Vaiana 2 et à 21h, c'est All We Imagine as Light de Kapadia Payal, Kani Kusruti, Divya Prabha et Shaya Kadam. Ce film a obtenu le Grand Prix à Cannes l'année dernière. Sans nouvelles de son mari depuis des années, Prabha, infirmière à Mumbai, s'interdit toute vie sentimentale. De son côté, Anu, sa jeune colocataire, fréquente en cachette un jeune homme qu'elle n'a pas le droit d'aimer. Lors d'un séjour dans un village côtier, ces deux femmes, empêchées dans leur désir, entrevoient enfin la promesse d'une liberté nouvelle. Ce vendredi au Chaudron du Rock, il y a une soirée avec Polocus et Mougen, un duo rap-accordéon-rap-musette. Polocus et Mougen est un groupe qui mélange donc rap et accordéon, avec Polocus qui rappe et qui est au sax, et Mougen à l'accordéon, trombone et chant. Partageant la scène depuis 6 ans, les deux acolytes s'aventurent sur des beats hip-hop, trap ou électro. Il propose une musique festive avec des textes ciselés mêlant fiction, confidence, références geek et pop culture. Et samedi toujours au Chaudron, ces soirées acides et psy-trans avec Charles-Henri le Magnifique et Rusty Train. Pour les deux soirées, l'entrée est libre. Petite restauration sur place, ouverture à 19h. Les concerts sont à 21h. Vendredi, vous pouvez aussi aller à partir de 19h à la Tendresse à Montpellier pour une soirée spectacle et palabre autour des carnavals. À 19h, c'est l'ouverture des portes et de la buvette et une installation sonore à découvrir, le chant des masques de Cécile Février, Péroline Barbé et Anaïs Vaillant. Un florilège de masques immersifs pour une exploration sonore des mondes carnavalesques pour des traversées festives et militantes de la ville. À 19h30, une présentation de la soirée avec l'intervention subjective de membres du canal historique et usurpé du carnaval de Montpellier, dit aussi des anarchistes, de la rue, etc. À 19h45, une présentation du livre Carnaval Toi, petit guide d'émancipation féministe et carnavalesque par les Reines Pédoc aux éditions Cambourakis. Comment s'emparer des pratiques traditionnelles sans en conserver les éléments les plus patriarcaux ? Comment rendre inclusif un répertoire carnavalesque qui s'est longtemps construit sur une distribution genrée des rôles ? Comment faire la fête, exercer l'art de la provocation, jouer avec les masques et les identités sans sexisme ? Comment penser carnaval à partir des questions de consentement, de dépassement des rôles genrés, d'appropriation culturelle avec un ton humoristique rabelaisien et décalé, les Reines Pédoc nous invite à inventer nos propres masques et pratiques carnavalesques, déjantées et politiques, et à les rejoindre dans une farandole régénératrice. Collectif transrégional de carnavalières au grand pied, créé en 2017, les Reines Pédoc tissent des liens magiques et politiques entre les mondes carnavalesques et expérimentent derrière leurs masques les arts de la quenouille, du théâtre et de l'ethnologie. À 20h30, il y aura le spectacle Carnaval, récit symphonique et carnavalesque pour une ours et un guitariste, écrit et compté par Marie Coumès et accompagné à la guitare par Paulin Courtial. Carnaval, c'est un spectacle qui tisse des contes de la mythologie languedocienne avec des récits contemporains de carnaval. C'est une constellation d'histoires qui rend compte du merveilleux et de la démesure de cette vieille fête calendaire. C'est le road trip rocambolesque qui nous mène au cœur d'une mythologie sincère et renouvelée. C'était une nuit froide et étoilée, 4h du matin. Je roulais seul dans ma voiture, déguisée en ours. Retour de carnaval. Au détour d'un virage, une voiture dans le fossé. Je m'arrête. Un homme en habit de chasseur avec un gilet jaune se cramponne au volant. Il s'appelle Lapin. Derrière moi, invisible dans un premier temps, je découvre plus tard son collègue, shérif, habillé d'une veste de daim à franges Santiago au pied. Nous nous rencontrons, moi, en ours, shérif et Lapin. Ils me disent « Madame, vous êtes un ange, je dois les sauver ». Ce spectacle est pour tout public à partir de 8 ans. L'entrée pour cette soirée à la Tendresse, c'est 5€. L'adhésion est obligatoire et elle est à prix libre. Il y aura buvette, petite restauration à prix tendre. Et à noter aussi que le spectacle de Marie Coumès et Paulin Courtial, Carnaval, sera visible dimanche à 17h, plus près de chez nous, puisque ce sera au café de la place de Saint-Bosile de Putois. Ce samedi, on passe à samedi, oui, à Anduze, à 18h, à la salle voûtée, il y a une présentation du livre « La rue et minière au XXIe siècle, une enquête sur les métaux à l'ère de la transition » de Célia Isoer aux éditions du Seuil. Et c'est Fred du collectif Terre Vivante en Cévennes qui va nous présenter cette soirée, et ensuite il y aura une petite interview de Célia Isoar qui nous parle donc de cet ouvrage.
Interview.
Fred, tu fais partie de Terre Vivante en Cévennes et vous organisez ce samedi la venue de Célia Isoar pour la présentation de son livre « La rue minière au XXIe siècle ». Bonjour Fred.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Terre Vivante en Cévennes ?
Alors, Terre Vivante en Cévennes, c'est un collectif qui s'est créé il y a environ 2 ans et demi aux abords de Saint-Jean-du-Gard, Thoiras, Anduze, Alès, et qui s'intéresse à pas mal de questions, et notamment l'aide à l'installation paysanne, la défense des terres agricoles, les luttes contre tous les projets destructeurs qui fleurissent partout sur le territoire. Et aussi, de manière plus large, on s'intéresse à comment réfléchir à des possibles qui dépasseraient la situation dans laquelle le capitalisme nous a mis. Donc c'est des objectifs assez larges, mais qui restent ancrés vraiment dans le local, quoi.
Et comment vous est venue cette envie d'inviter Célia Izoar, qui s'intéresse aux questions minières ?
Alors, déjà, on était plusieurs à avoir lu son ouvrage quand il est sorti il y a un an environ, qui nous a vraiment intéressés. Et il se trouve aussi qu'à cette période, la soirée est organisée aussi avec la Dame VM, qui est l'association de dépollution des anciennes mines de la Vieille Montagne, qui se situe à Saint-Félix-de-Palière. Donc qui lutte depuis des années pour la dépollution du site, du site minier. Donc à cette époque-là, il venait de remporter un procès pour que la société gérante de ces mines puisse dépolluer justement le site. Donc c'était l'entreprise belge Umicore qui gérait ça. Donc du coup, on avait trouvé intéressant de pouvoir mettre un petit peu les questions du local avec de la question minière avec l'ouvrage de Célia qui révèle aussi pas mal de questions plus larges, quoi.
Est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur la situation de Saint-Félix ?
Saint-Félix, c'était une ancienne mine dont l'exploitation s'est arrêtée, je crois, dans les années 70, au début des années 70, qui a donc pollué en fait tous les cours d'eau, tous les alentours, et qui a donc mis en la santé des habitants en jeu, quoi, pendant plus de 50 ans. Donc là en ce moment, je crois qu'il y a les premiers travaux de dépollution qui sont entamés, mais ça il faudrait demander peut-être une confirmation à la DMVM. Et donc du coup, ça questionne quand même pas mal de voir que plus de 50 ans après, les sites miniers restent toujours dans des situations écologiques désastreuses, quoi. D'autant qu'on a vu là récemment. On a reçu un appel, un avis d'enquête du BRGM, qui est l'organisme d'État qui s'occupe des ressources minières et géologiques, qui lance un grand programme national pour sonder le sous-sol, c'est-à-dire pour voir où il pourrait éventuellement trouver d'autres métaux à forer. Donc on voit qu'il y a 5 grandes zones qui sont dessinées, dont une zone qui englobe les Cévennes avec les Pyrénées. Donc même si des travaux ne sont pas envisagés pour le moment, on peut s'attendre à ce que des travaux miniers puissent revoir le jour, pourquoi pas ici, ou en tout cas dans pas mal de d'endroits en France, quoi.
Oui, on sait déjà qu'il y a une mine qui va s'installer dans l'Allier, notamment.
Ouais, c'est ça, ouais. Avec toutes les conséquences que ça a au niveau local, hein. Donc, évidemment, la pollution des terres et des eaux, l'accaparement de l'eau, parce que l'extraction minière est une énergie, c'est vraiment... C'est très gourmand en eau, donc du coup, forcément, on pourrait imaginer maintenant, au jour actuel, dans les Cévennes déjà, qu'il y a une zone qui sera de plus en plus soumise à la pression de l'eau, quoi. Enfin, donc, comment se répartit la ressource, en fait, c'est une question qui est déjà assez préoccupante là-dessus. Et de manière plus large, on peut s'interroger aussi au pourquoi cette relance minière, en fait, pourquoi ce besoin de matériaux. Donc ça, c'est le thème que Célia aborde dans son livre, hein. C'est que la transition écologique, en fait, sert d'alibi, en fait, pour relancer tout ce secteur. Mais bon, on voit évidemment que ça marche pas, et c'est un moyen de relancer, de continuer le productivisme et de continuer la consommation et les nouvelles technologies qui sont dites dématérialisées, mais qui en fait sont catastrophiques au niveau du pillage des ressources, quoi.
Et tout ça en dépit de considérations écologiques et en utilisant l'argument de la décarbonation.
Ouais, c'est ça. On essaye de soigner un problème en se servant d'un autre, quoi. C'est complètement aberrant. Et évidemment, c'est toujours sans l'avis des populations locales, sans un questionnement plus large sur la gestion des usages, en fait. C'est-à-dire qu'on l'a vu, par exemple, pour toutes les questions de méga-bassines, en fait, ces projets-là vont servir à quelques personnes, mais où est le bien commun là-dedans? En fait, c'est la question qui se pose, quoi. Les populations ne sont jamais concertées et ne peuvent pas être partie prenante. Même quand il y a des oppositions fortes, on ne les écoute pas, quoi.
On va revenir dans le vif du sujet. Comment ça va se passer samedi, le lieu, comment les horaires, un petit peu tout ça?
Alors du coup, ça se passe à Anduze, à l'espace Pellico, à la salle voûtée. Donc c'est en plein centre d'Anduze, ce sera fléché. On va commencer par la présentation de Célia autour de son livre. Il y aura un moment d'échange avec le public. Et ensuite, il y aura un petit buffet qui est préparé par une équipe notre équipe de cantine de lutte, on appelle ça, et qui fera un petit repas à prix libre ensuite pour permettre de discuter un petit peu plus de manière plus informelle, quoi. Donc ça commence à 18h ce samedi.
D'accord, et ben je te remercie Fred, et puis dans un instant voilà. On va parler avec Célia qui va nous expliquer un petit peu l'étude et les recherches qu'elle a fait sur les mines. Merci beaucoup Fred.
Ok, ben merci Julie, à bientôt.
Célia.
Bonjour.
Tu viens samedi à Anduze présenter La ruée minière au 21e siècle, enquête sur les métaux à l'ère de la transition. Donc un ouvrage qui est sorti l'année dernière et qui fait un point sur la transition et les projets miniers qui s'annoncent. L'idée, c'est quand même de déconstruire un mythe, celui du mythe écologique de la transition.
Alors oui, ce livre est une forme de fresque un peu historique qui nous amène à comprendre comment on en est arrivé au concept, je dirais même à l'idéologie de la transition, telle qu'elle a été adoptée par les élites presque du monde entier. Qui est fondée en fait sur une contradiction majeure. Et cette contradiction, c'est pour sauver la planète, il faudrait en fait miser massivement sur l'industrie minière. Aujourd'hui, d'un bout à l'autre du globe, il y a des centaines de projets miniers qui sont lancés avec la justification de faire baisser les émissions carbone. Et alors... Ça, c'est l'énormité qui est aujourd'hui vendue comme projet politique. Hein, c'est le projet politique majeur aujourd'hui. La justification, qu'est-ce que c'est? C'est il faut des métaux pour construire du photovoltaïque, des éoliennes pour alimenter la filière batterie et les véhicules électriques. Donc, ça va faire baisser les émissions carbone. Et alors, ça m'a amené depuis des années à m'intéresser au secteur minier et à regarder comment il fonctionne. Réellement, évidemment, le secteur minier est en fait une cause majeure de réchauffement climatique. Les mines réchauffent très activement le climat. Ce projet-là ne fonctionne pas. Et là, quand je disais je fais une fresque historique, c'est-à-dire que j'essaie de comprendre dans quelle mesure finalement le système capitaliste depuis le début est fondé sur la mine. L'extractivisme, c'est vraiment la matrice, c'est ce qui structure ce système économique dans lequel on vit. Et c'est pas un hasard si au moment où ce système est le plus en crise, au moment où on est confronté à vraiment des menaces d'effondrement écologique de premier ordre, et bien finalement, les élites du capitalisme en reviennent aux fondamentaux. Tiens, pour sauver la planète, on va faire de la mine. Ah oui, la mine, c'est finalement... une sorte de fétiche.
Dans un résumé du livre, il est dit qu'avec les projets actuels par rapport aux batteries, par rapport au photovoltaïque, à tous les besoins entre guillemets qu'on aurait, en fait, il faudrait produire en 20 ans autant de métaux qu'on a extrait au cours de toute l'histoire de l'humanité.
Ah oui, tout à fait. En fait, c'est documenté. Hein. Dès qu'on s'amuse à calculer ce que ça voudrait dire en termes de métaux, l'électrification du système énergétique aujourd'hui, c'est ça, voire c'est plus. Ça a été calculé par plusieurs institutions, par exemple l'Institut géologique de Finlande, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Oui, c'est un gouffre. Plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années de production, par exemple de lithium ou de cobalt, pour alimenter ne serait-ce que l'électrification des véhicules. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'une contradiction majeure de la transition, c'est-à-dire que le projet n'est pas rationnel, le projet ne fonctionne pas. Il n'y a aucune chance de réussir à enrayer le réchauffement climatique en faisant de la mine, en électrifiant le système énergétique. Ça ne peut pas marcher. Donc c'est un projet qui tient de la croyance, beaucoup plus que de l'ingénierie, de la croyance, et d'une manière plus cynique aussi, qui relève de la promesse. C'est-à-dire qu'en continuant à faire fonctionner l'économie sous le régime de la promesse, finalement, les dirigeants parviennent à maintenir le statu quo, à permettre que ce qui se fait continue à se faire.
C'est que l'extraction elle-même demande énormément d'énergie.
Ben voilà, l'extraction, c'est l'un des secteurs les plus énergivores aujourd'hui, de tous les secteurs, mais c'est assez logique, puisque quand on dit extraire des métaux, on extrait du cuivre, on extrait de l'argent, mais ça c'est... En fait, c'est un raccourci de langage. Mais évidemment, on n'extrait pas du cuivre, on n'extrait pas des métaux, on extrait des centaines de milliers de tonnes de roches dans une grande mine, hein, par exemple, chaque jour, et dont quelques grammes vont pouvoir créer du cuivre au terme de procédés industriels qui sont nombreux et de passage dans plusieurs usines, une usine de concentration du minerai, puis une fonderie, puis une usine d'électrolyse. Voilà, c'est très très long d'obtenir des métaux. Et ça aussi c'est un paradoxe, c'est-à-dire que on est dans un monde dans lequel on consomme des métaux comme un consommable, c'est-à-dire comme quelque chose qui pourrait toujours être renouvelé. Et même quand on s'intéresse au recyclage, on s'aperçoit que c'est... En fait, rien dans ce monde et dans notre rapport aux objets ne permet vraiment le recyclage. Donc, regardez ça, regardez ce secteur-là, cette filière-là, ça veut dire, en fait, rien moins que changer notre rapport à la technique.
Il y a aussi toute la question de l'eau, notamment.
Alors,
la pollution des sols et l'utilisation de l'eau, puisque les mines peuvent être très gourmandes en eau.
Les mines sont toujours très gourmandes en eau, ne serait-ce que pour le broyage qui nécessite énormément d'eau. Et les mines perturbent toujours les réseaux d'eau souterraines, puisqu'il faut pomper toute l'eau qui est en sous-sol pour pouvoir exploiter le gisement. Donc une mine, c'est toujours une très très mauvaise nouvelle pour la ressource en eau. Et là, ben, évidemment, c'est un véritable mur, hein. Le fait qu'il y ait des projets pour démultiplier par 5, 10 l'extraction minière dans le monde, c'est la pire catastrophe qu'on puisse imaginer, puisque, en fait, les deux tiers des mines dans le monde sont situées sur des zones qui sont menacées de sécheresse. Donc c'est promettre des conflits d'usage extrêmement violents entre les populations, les communautés qui vivent là, et l'extraction minière. Et ces conflits, ils ont bien sûr commencé. Hein. Je pourrais vous parler du Maroc, où l'extraction minière assèche des régions qui sont déjà semi-désertiques, ou du Chili, où les mines accélèrent la fonte des glaciers, tout en augmentant très 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 sérieusement la sécheresse.
Et si on parle plus précisément de la France, parce que comme tu le disais, ces projets, c'est partout dans le monde. Mais en France, on voit que depuis quelque temps, il y a un intérêt à nouveau pour faire des mines. On le voit notamment dans l'Allier. Et le BRGM a commandé des études de sous-sol assez récemment. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose ?
Oui, alors, si on parle de la France, en fait, soyons sérieux, la France est un pays minier par ses colonies. Hein, la Guyane, c'est une région aurifère. Hein, la Guyane a été conquise pour l'or, à la base, même au XVe siècle déjà. Et on y extrait toujours beaucoup d'or. Et puis la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi une conquête, bien plus tard là pour le coup, pour le nickel.
Hein. Le nickel, oui, tout à fait.
Donc quand on dit la France, en fait, ce qu'on veut dire là, je pense dans votre question, c'est la France métropolitaine.
Oui,
où,
oui,
c'est, il n'y a plus réellement de mines.
C'est vrai.
Il n'y a plus réellement de mines depuis le début des années 2000, parce que en fait, la France métropolitaine était une région minière, elle a été très très exploitée. Il y avait 247 mines d'uranium dans l'Hexagone. Et on a du mal à se le représenter. Il y avait évidemment des mines de plomb, de zinc, comme les habitants de la région de Saint-Félix-de-Talières le savent. Et donc aujourd'hui, effectivement, le gouvernement a envoyé des signaux aux investisseurs miniers pour lancer de nouveaux projets en Hexagone. Alors c'est intéressant parce que finalement c'est la relance de projets qui avait émergé en 2012 quand il y avait un premier plan de relance minière en France porté par Arnaud Montebourg. À l'époque les mines c'était vraiment lancé, les projets miniers en France c'était lancé vraiment avec la justification de créer de l'emploi et faire de la France un grand pays minier, le développement et la richesse. Aujourd'hui, les mêmes projets miniers reviennent, mais sous la bannière de la transition. C'est des projets qui sont censés accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. Et alors, qu'est-ce que c'est ces projets? Il y a effectivement des projets pour le lithium, avec par exemple un gros projet dans le Massif central, à Échassières, en Allier, pour lequel l'enquête publique va commencer dans une semaine. Donc du lithium. Et là encore, la question c'est vraiment, mais pourquoi faire ce lithium, par exemple, puisqu'on sait que si c'est pour faire des batteries de véhicules électriques d'une tonne 5 ou de 2 tonnes, c'est du réchauffement climatique pur. Il n'y a aucun gain pour le climat. C'est en partie ce que font valoir les personnes qui s'y opposent localement, ainsi que évidemment les problèmes de pollution et les problèmes d'eau que ça a posé. De la part des habitants de la région qui m'invite, je pense que c'est une occasion de repenser les anciens sites miniers de la région de Saint-Félix-de-Palières, de les replacer en fait dans une histoire mondiale de la mine, de les repenser aussi dans le temps et à la lumière des enjeux actuels. Il y a ça, et puis il y a de toute façon un voyage dans notre monde matériel, hein, puisque notre civilisation est fondée sur la mine, et pourtant tout se passe comme si c'était une sorte de tabou, quelque chose dont on ne parle jamais et qu'on mesure à peine.
Jusque-là, on avait l'impression, quand on parlait par exemple de l'extraction des terres rares, on disait oui, ça peut être terrible, mais c'est en Mongolie, et le fait que ça se rapproche, peut-être que ça peut interpeller un peu plus les gens sur la réalité de l'extraction minière.
Oui, enfin, en tout cas, pour ce qui est des Cévennes et de plusieurs régions dans le sud de la France, l'extraction, elle est quand même connue. Il y a des conséquences, elles sont là, l'histoire, les gens l'ont vécu. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de rupture majeure entre l'extraction du 19e et du 20e siècle et l'extraction du 21e siècle. Enfin, en tout cas, la soirée sera l'occasion de discuter de ces différences et du continuum entre ces pratiques.
Merci beaucoup. Et puis, on encourage tous nos auditeurs à assister à cette soirée qui s'annonce passionnante. Je rappelle donc que cette soirée est à 18h à la salle voûtée rue Pellicot à Anduze, qu'il y aura aussi présent pour discuter, participer des membres de l'ADAMVM, Association pour la dépollution des anciennes mines de la vieille montagne, qui se mobilise pour la dépollution des anciennes mines dont Oula, je vais y arriver. D'où ont été extraits plomb, zinc, cadmium et germanium dans les Cévennes près d'Anduze. Voilà, et l'attention aux questions minières ne s'arrête pas là, puisque samedi toujours est organisée à l'Étuve à Pondéreau une autre discussion sur ce sujet qu'ils ont intitulé « Mines, gloire et beauté ». Dès 16h, Rature et Progrès présentera une exposition « Meilleurs souvenirs des mines », une série de photographies illustrant les ravages de l'industrie minière en Cévennes et ailleurs. Et deux expos sur l'extractivisme au Portugal et en Équateur seront aussi visibles. À 17h30, c'est la présentation du livre « Ni or, ni maître », avec l'intention de nuire à la montagne d'or et au monde qui en a besoin. Cet ouvrage est écrit par des individus profondément hostiles à toute forme d'autoritarisme, voyageant de rond-point en village, de bureau d'études en site minier. C'est une part de la Guyane et de ses complexités qui tente d'être mise en mots avant de tirer les fils d'un entrelacs macabre, ceux de l'extraction minière. J'ai beaucoup de mal là aujourd'hui. La présentation sera suivie donc d'une discussion sur les ravages durables de l'après-mine et les projets en cours, notamment en Ariège et au Portugal. Et ce sera suivi à 20h d'une soupe, pas bio, pas locale et pas de saison, un minestrone et un fondant au chocolat. Le chocolat sera local, nous précisons. Cet agenda est terminé. Dans un instant, vous retrouvez Bruno, bien sûr, pour une nouvelle chronique du dessin.
Tu sais pas quoi faire ? Écoute l'agenda culturel d'Escapade.
Tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, à midi.
Rediffusion le soir même à 19h.
Et en podcast à toute heure.
Sur le site radioescapades.org.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire ?
L'agenda culturel d'Escapade.
Pour tout savoir
sur ce qui se passe
près de chez vous.